Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou. Que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le Fils aîné. C'est notre cinquième émission et je bénis le Seigneur pour cela. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement vous inviter à prier avec moi pour remercier le Père, pour le louer, pour l'adorer pendant quelques secondes, car si nous avons encore le mouvement et l'être, la santé, c'est grâce à lui. Et si nous pouvons faire quelque chose de bien, ce n'est pas nous, c'est Dieu au travers de nous qui fait quelque chose. Alors il faudra lui dire merci. Prions. Père éternel, merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour le salut. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent maintenant, en ce moment, près de leur radio, près de leur ordinateur, en train d'écouter cette émission, Seigneur. Ils ne veulent pas écouter un homme, car je ne suis qu'un homme et je suis limité. Mais ils veulent écouter toi, le Dieu vivant, et toi, tu es illimité. Tu parles à leur cœur, et ils veulent que tu parles à leur cœur, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Merci. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Comme je le disais, nous sommes en train de faire une toute petite étude sur la parabole du Fils prodigue. Et nous sommes en train d'étudier la partie concernant le Fils aîné. C'est notre cinquième émission et je vous invite à lire avec moi dans Luc 15, 25 à 26. Luc 15, 25 à 26. Cependant, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Nous pouvons nous limiter là, pour la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant que le fils aîné revenait des champs, le père, le fils cadet, le fils rebelle se réconciliaient. Nous avons dit dans les émissions précédentes que le fils aîné tolérait certaines choses dans sa vie, dans la vie de son frère, ce qui a causé, qui a provoqué des problèmes, une rébellion dans la vie de son frère face à leur père. Parce que le fils aîné n'avait pas joué son rôle de médiateur, parce que le fils aîné n'avait pas joué son rôle de gardien de son frère. Ils sont frères, certainement qui connaissaient les projets, certainement qui connaissaient les difficultés, certainement qui connaissaient les intentions du frère cadet. Mais il n'a rien dit, il n'a rien fait, il a laissé faire. Et son frère est parti demander sa part d'héritage. Et son frère s'en est allé dans un pays pour vivre dans la débauche. Donc son frère s'est retrouvé dans la difficulté. C'est comme pour dire que vous et moi, si nous sommes à Jésus-Christ, nous pouvons être considérés comme étant le fils aîné, comme étant des fils aînés. Ce qui sous-entend que nous avons la responsabilité des hommes et des femmes que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Il est vrai que tous les hommes, toutes les femmes sont libres de faire leur choix. Même Dieu respecte leur choix. Mais il est de notre responsabilité de leur apporter la lumière. Il est de notre responsabilité de les écouter. C'est vrai que ce n'est pas facile. En longueur de journée, des gens qui vous appellent, qui vous disent « Je suis fatigué ». Je trouve que Dieu est trop dur avec moi. Comment ça se fait que ceux qui viennent à peine de se convertir, Dieu les bénit grandement. Moi, ça fait autant d'années que je marche avec le Seigneur. Je n'ai jamais rien reçu ou bien j'ai très peu reçu du Seigneur. C'est vrai que c'est difficile d'entendre ce genre de choses. Mais il est de notre responsabilité de les encourager. S'ils ne sont pas parfaits, nous aussi nous ne sommes pas parfaits. Le seul qui soit parfait, c'est Dieu. Le seul qui soit parfait, c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous demande de soutenir, d'encourager les hommes et les femmes qui sont abattus. Nous devons les guider. Le fils aîné aurait dû aller voir leur père, par exemple, pour exposer les difficultés que lui et son frère rencontraient. « Écoute, papa, ça fait tant d'années que nous te servons. Nous n'avons jamais eu de cadeau de ta part. Nous n'avons jamais eu de vêtements neufs de ta part. Nous n'avons jamais eu de parfum. Nous n'avons jamais rien eu de ta part. Pourquoi tu nous traites si durement ?» S'ils avaient eu le courage de le faire, je suis certain que le père, leur père, dans cette parabole, aurait éclairci leur situation. Mais le fils aîné a toléré. Nous ne devons pas tolérer le péché dans notre vie. Le péché. Nous ne devons pas tolérer des petits péchés. Nous ne devons pas tolérer des petits mensonges, des petites choses qui sont contre la parole de Dieu. Car, comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit par rapport à la prédication d'un pasteur, si dans le livre de Genèse, on parle d'un serpent, dans le livre d'Apocalypse, on parle du dragon. Si dans le livre de Genèse, on parle de Satan comme étant un serpent, dans le livre d'Apocalypse, on parle de Satan comme étant un dragon. Donc, il a pris du volume, il a pris de l'ampleur, et Paul même nous a recommandé un peu de levain, juste un peu de levain, fait grandir toute la pâte. La tolérance dans notre vie doit être de zéro. Dans la vie des autres, si je puis me permettre, nous ne devons pas tolérer le péché dans leur vie, dans ce sens que nous devons leur prévenir que le chemin qu'ils sont en train de prendre est le chemin de la perdition. Avec amour, nous ne devons pas les rejeter, nous ne devons pas leur donner l'impression que nous les condamnons. Non, mais au moins leur dire: mon frère, ma sœur, le chemin que tu prends n'est pas le bon chemin, car la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Nous devons le faire avec amour, et non pas avec comme une sorte de fouet. Tu es un pécheur, tu es ceci. Non, nous devons le faire avec amour. Si le fils aîné avait fait cela avec son frère cadet, peut-être que le frère cadet ne serait pas parti. Peut-être que le frère aîné aurait dû dire: si tu quittes la maison de ton père, si tu quittes la maison de notre père, tu seras en danger. Car la sécurité est dans la maison de Dieu. La sécurité est ici. La santé est ici. La prospérité est ici. Mais il n'a rien fait. Il ne s'est pas opposé au départ de son frère. Il a toléré. Et son frère n'a eu que des problèmes. Et nous avons aussi dit que tandis que le père et le fils cadet sont en train de se réconcilier, le frère aîné, lui, il fait autre chose. Il revient d'un autre travail. Et là, nous sommes en train d'interpeller, si je puis dire, nous qui connaissons le Seigneur depuis un certain nombre d'années. Où sont nos frères, où sont nos sœurs qui se sont rebellés face à Dieu? Le frère aîné n'est pas l'auteur de la réconciliation entre le Père et le Fils. Jésus-Christ peut être comparé comme étant le Fils aîné par excellence. Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est donné, s'est sacrifié pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Mais vous et moi, que faisons-nous pour que Dieu soit réconcilié avec les rebelles qui sont encore vivants dans ce monde? Le fils aîné, ce n'est pas son problème. Il est préoccupé par des tâches qui sont secondaires pour son père. La tâche prioritaire pour Dieu n'est pas que nous puissions nous marier, n'est pas que nous puissions avoir des enfants, n'est pas que nous puissions avoir un bon travail, un bon salaire, une belle voiture, une maison meublée, que nous puissions faire des voyages dans le monde entier, que nous puissions être habillés des meilleurs couturiers. Ce n'est pas de mauvaises choses, mais ce n'est pas ça qui est prioritaire pour Dieu dans nos vies. Pour Dieu, la priorité est d'abord de sauver les perdus. Une fois que vous êtes sauvés, la priorité pour Dieu n'est toujours pas encore votre mariage. La priorité pour Dieu est ce que vous allez faire pour lui, pour ramener d'autres personnes à Dieu. Nous avons lu dans Matthieu 28, 19 à 20. Relisons-le encore. Matthieu 28, 19 à 20. Vous y êtes. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La priorité, la mission prioritaire que Dieu donne à l'Église est d'abord d'aller dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. La mission prioritaire n'est même pas d'abord d'établir des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des apôtres, des diacres, des anciens, des PDG d'entreprise, des présidents d'entreprise, des chefs d'entreprise, des mariages. Non, c'est pas ça d'abord. Nous devons savoir que notre mission première est d'abord d'annoncer l'évangile au monde perdu. En d'autres termes, de ne pas nous comporter comme le fils aîné qui s'est préoccupé pour le champ de son père, alors que son frère est perdu. C'est un peu comme Dieu posera la question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Dieu cherche les hommes. C'est vrai que Abel n'était pas perdu. C'était Caïn qui était perdu. Mais regardez comment Caïn répond. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Ne soyons pas des Caïn. Notre frère n'est plus. Et lorsque Dieu nous pose la question, où est-elle? Tu dis, c'est pas mon problème. Moi, je suis sauvé. Moi, j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis membre d'une église. Je paye ma dîme. C'est une très bonne chose. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'au travers de nous, il ramène aussi d'autres personnes à lui. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Le psaume 82... Psaume 82, versets 4 à 5, nous disent ceci. Psaume 82. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Répétons. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est Dieu qui nous dit ça. Il dit, nous devons sauver les perdus. Pourquoi? Ils sont d'abord captifs des méchants, des esprits méchants. Le drogué, l'alcoolique, l'adultère, le fornicateur, le pornophile. Ils sont liés par des esprits méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Oh, il a peut-être un grand diplôme d'une grande université, c'est un grand professeur, mais tant qu'il est perdu, Dieu dit, il n'a ni savoir ni intelligence. Donc il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et il marche dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils vont. Et ça c'est bien vrai, regardez le monde. Ça fait combien d'années que la Bible dit aux hommes qu'il y a une vie après la mort. Mais les hommes sont toujours en train de chercher des théories. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La Bible a déjà répondu. L'origine de la vie, la Bible a déjà répondu. Ils sont dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils vont. Et vous et moi qui marchons dans la lumière, qui sommes dans la lumière de Christ, il est de notre devoir de leur parler. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est ça que Jésus nous dit. Nous sommes la lumière du monde. Donc, apportons cette lumière à ceux et celles qui sont perdus, à tous ces fils cadets qui se sont éloignés de la maison de Dieu. Certains ont du mal à revenir près de Dieu, dans la maison de Dieu, à cause de leur entre guillemets, multiplicité de péchés. Satan leur fait croire que Dieu ne pourra pas les aimer. Ils ne sont pas assez bons. Combien de religions, même dites chrétiennes, prétendent que Dieu sauve que ceux qui font l'effort de devenir bons? Non! Vous et moi qui connaissons la vérité, que faisons-nous de nos frères et sœurs qui sont perdus? qui vivent dans la débauche, qui vivent dans la misère, qui vivent dans la, qui sont emprisonnés. Nous devons leur témoigner Jésus-Christ. Si Jésus-Christ a fait quelque chose dans votre vie, vous devez témoigner cela. Jésus ne demande pas que nous bâtissions forcément des ministères d'évangélisation, des églises. Il ne nous appelle pas tous à faire cela, mais il nous appelle tous à témoigner. J'ai suivi dernièrement sur Internet un témoignage d'un monsieur qui s'est converti de l'islam au christianisme. Il racontait que, en chemin, il a croisé, dans un parc, il a croisé un monsieur qui lui a parlé. Il n'était ni pasteur, ni homme de Dieu, ni quoi que ce soit. Simplement, ils ont fait connaissance, et puis le monsieur a commencé à lui témoigner Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ avait fait dans sa vie. Alors il disait, c'est extraordinaire. Ça l'a bouleversé. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, et depuis ce jour-là, sa vie a complètement changé. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, Jésus-Christ veut plus utiliser, entre guillemets, des laïcs que des hommes de Dieu. Nous devons tous parler de Jésus-Christ autour de nous, pour ramener des fils prodigues à lui. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils ne savent pas où ils vont. Leur intelligence est limitée. Leur intelligence est obscurcie par le prince de ce monde, qui leur fait croire en n'importe quoi. L'homme intelligent, c'est l'homme qui connaît Dieu. L'homme qui a un savoir, c'est l'homme qui connaît Dieu. L'homme qui marche dans la lumière, c'est celui qui connaît Dieu au travers de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile. En d'autres termes, témoignez Jésus-Christ. Écoutez, vous n'irez peut-être pas au Pakistan. Vous n'irez peut-être pas au Japon. Vous n'irez peut-être pas en Chine. Vous n'irez peut-être pas au fin fond du Ghana, au fin fond d'une forêt équatoriale. Vous n'irez peut-être pas au Maroc pour prêcher l'évangile. Mais au moins, vous pouvez parler de Jésus-Christ autour de vous. Parce qu'il y a un fils prodigue qui veut rentrer à la maison. Il y en a. Il y a peut-être aussi, vous allez rencontrer aussi peut-être des orgueilleux. Ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mal agi. Ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous rencontrons aussi en chemin des hommes et des femmes qui veulent revenir à Jésus-Christ. Alors s'ils veulent revenir à Jésus-Christ, quel est l'instrument que Dieu pourrait utiliser? C'est vous et moi. C'est vous et moi. Dans Acte 1, verset 8, Jésus dit ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Observez, vous êtes témoins, soyez des témoins à Jérusalem. Ils sont de Jérusalem. Ils habitent Jérusalem. Dieu leur dit, soyez des témoins là où vous êtes. Dans toute la Judée, dans tout le pays et dans la Samarie. La Samarie était en Judée. Pourquoi Jésus-Christ fait la différence entre la Samarie et la Judée? Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Quand vous lisez les évangiles, on a même qualifié Jésus-Christ de Samaritain, comme pour un tout petit peu l'insulter, pour dire il est différent, on ne veut pas de lui chez nous. En Samarie, comme pour dire que les fils prodigues ne sont pas seulement des hommes et des femmes de notre tribu, de notre culture, de notre race, de notre niveau social, de notre rang. C'est aussi les autres, ceux que nos cultures méprisent. Ah, vous êtes blanc, vous dites, les noirs sont inférieurs. Ben Jésus-Christ dit, ceux-là aussi doivent entendre l'évangile. Du reste, il n'y a pas de race supérieure à une autre. Mais c'est pour dire que ceux que vous méprisez, ce que vous croyez être différent de vous, Jésus-Christ vous demande à eux aussi, Jésus-Christ vous demande à vous aussi de leur apporter l'évangile. Dans la Samarie, des cultures différentes, des façons différentes de réfléchir, des façons différentes de se comporter, des façons différentes de s'habiller, des façons différentes de manger. Jésus dit, vous devez aussi leur apporter la bonne nouvelle. Vous devez les ramener à Dieu. Nous avons dit l'émission précédente que Dieu nous a donné le ministère de réconciliation. Alors si vous dites que dans l'Église, Jésus ne vous a pas donné de ministère, c'est faux. Le ministère numéro un que Dieu donne à chaque chrétien est un ministère de réconciliation. Nous sommes appelés à réconcilier Dieu avec les autres hommes, avec les hommes. C'est la mission de Christ, réconcilier Dieu avec les hommes. Et Jésus-Christ nous a aussi confié cette mission, à nous aussi de faire de manière à ce que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Comment ? En leur témoignant Jésus-Christ. Parce que la chose prioritaire qui préoccupe Dieu, c'est les perdus. Les perdus, ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Dieu se préoccupe d'eux d'abord. Dieu ne se préoccupe pas d'abord de votre travail, je vais peut-être vous choquer. Dieu ne se préoccupe pas d'abord de votre travail, de votre santé, de votre vie, de votre carrière. Il se préoccupe d'abord des perdus. Et il veut vous utiliser, vous, pour amener aussi des perdus. Bien sûr, dans l'œuvre rédemptrice de Christ, nous avons notre travail, nous avons notre santé, nous avons droit à toutes ces choses. Nous avons droit à toutes ces choses. Mais toutes ces choses doivent servir Dieu dans nos vies. Et qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie ? Gagner un maximum d'hommes et de femmes qui sont perdus. Le fils aîné dans la parabole que nous avons lue se préoccupait des choses secondaires de son père. Il était allé au champ, travailler les champs, je ne sais pas si c'était le maïs, je ne sais pas si c'était le blé, je ne sais pas si c'était... Bon bref. C'était quelque chose qu'on produisait chez eux. Et c'était ça qui le préoccupait, prétendant qu'il faisait la volonté de son père. Non ! Vous voulez faire la volonté de Dieu ? Gagnez des perdus. Gagnez des perdus. Jacques 5, 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre le ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort spirituelle. Et le couvrira une multitude de péchés. Jacques nous le dit, si nous ramenons quelqu'un à Dieu, Dieu va pardonner cet homme-là. Et nous le voyons dans la parabole du fils prodigue. Quoique le fils aîné ne soit pas l'artisan de cette réconciliation, mais lorsque le fils prodigue revient, Dieu pardonne, le père pardonne au fils cadet sa rébellion. Il n'en parle même pas d'ailleurs. Tout ce qu'il dit, celui, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il a été retrouvé. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Donc nous ne devons pas avoir des préjugés, dire que les péchés de cet homme sont trop grands pour que Dieu lui pardonne. Oh, c'est un homosexuel, oh, c'est une lesbienne, oh, c'est une prostituée, c'est un occultif, il a fait beaucoup de choses, beaucoup de péchés. Alors, on le catégorise, sans même le dire, parmi ceux qui sont perdus pour l'éternité. Non! Même si c'est un homme cruel et méchant, Dieu nous demande de témoigner Jésus-Christ à cette personne. Et qui sait si Dieu lui fera grâce de se convertir ? Qui sait si Dieu lui fera grâce de se convertir ? Mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur. Dieu aime le pécheur et Dieu veut sauver le pécheur. Dieu aime le pécheur. Pour finir, je vais dire ceci, je veux vous inviter à lire dans Jacques 4, verset 17. Et là, c'est ce que Dieu dit à chacun d'entre nous. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. En d'autres termes, vous savez que parler de Jésus-Christ est une très bonne chose, mais vous ne le faites pas. Dieu dit que vous et moi, nous commettons un péché si nous ne faisons pas du bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le péché, c'est pas seulement voler, c'est pas seulement mentir, ce n'est pas seulement commettre l'adultère, ce n'est pas seulement commettre la fornication, regarder des trucs pornographiques, insulter, avoir d'autres dieux que Jésus-Christ. C'est aussi ne pas faire ce qui est bien. Vous savez que témoigner Jésus-Christ est une très bonne chose. Vous savez que vous avez la solution au problème des autres, mais vous vous taisez. Vous gardez ça pour vous. Dieu dit, vous êtes en train de commettre un péché. C'est un péché. C'est un péché. Le péché, c'est aussi de refuser de faire ce qui est bien. C'est ça le péché. Mon frère, ma sœur, êtes-vous artisan de la réconciliation entre Dieu et les hommes? Que faites-vous pour que Dieu sauve des hommes et des femmes aujourd'hui? Or, vous me direz, je vais à l'église, je suis sauvé. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites pour que Dieu ramène d'autres personnes à Christ? Je tiens encore à le dire, Dieu ne vous appelle pas forcément à être un homme de Dieu, mais Dieu vous appelle à être un témoin. Vous serez des témoins dans toute la terre. Et Jésus-Christ vous dit, Jésus-Christ me dit, si nous ne faisons pas ce qui est bien, nous sommes en train de commettre un péché. Et si vous avez commis ce péché, celui qui est de refuser de faire du bien, celui de refuser d'être l'artisan d'une réconciliation entre Dieu et les hommes, Dieu vous demande de vous repentir aujourd'hui et de lui demander pardon. Si vous êtes de ce cas-là, c'est très simple. Demandons pardon à Dieu. Répétez ces simples mots que je vais faire. Après, dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je viens devant toi. Je demande pardon de ne pas avoir été un artisan de la réconciliation entre toi et les hommes. Je demande pardon de ne pas avoir rempli mon ministère de réconciliation. J'invoque le sang de Jésus-Christ dans ma vie. Et je crois qu'en ce moment, le sang de Jésus-Christ me purifie. Je prends l'engagement, dès maintenant et jusqu'à la fin de ma vie, à devenir un ministre de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Je prends l'engagement maintenant de témoigner Jésus-Christ autour de moi. Dans ma vie, dans les paroles que je vais prononcer, dans mon comportement, je prends l'engagement de donner l'opportunité à Dieu de gagner des âmes au travers de moi. Merci pour ton amour, merci pour ta parole, merci de m'avoir réveillé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que Dieu vous a entendu par la foi. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de contacter notre ministère pour écouter ce message, pour connaître les différentes heures de diffusion de l'émission Venez à Jésus sur votre radio préférée, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au plus 243 819 910 910. Je répète, au plus 243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambou. Nous nous retrouvons la fois prochaine sur le même thème, le Fils aîné. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.